Mon nom est Farah Elibé et je suis ingénieure à la NASA.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiante?
C'était un peu compliqué pour moi. En fait, j'ai grandi en Angleterre. Donc, j'ai fait mon bac en ingénierie à l'Université de Cambridge. J'ai fait ma maîtrise là aussi en ingénierie aérospatiale. Mais j'étudiais surtout tout ce qui était l'aéronautique. Donc, à la fin de ces études-là, j'avais quand même encore le goût de travailler dans l'espace. Donc, je me suis retrouvée au MIT à Boston, où j'ai fait mon doctorat en aérospatial aussi, mais avec une concentration plutôt du côté de l'espace.
Quel a été votre parcours professionnel?
En fait, quand je me suis retrouvée au MIT en faisant mes études de doctorat en 2012, j'ai fait un stage à la NASA. En fait, j'ai fait bien sûr plusieurs stages pendant mes études, mais ce stage-là était un stage spécial parce qu'il était ici au Jet Propulsion Lab. Et c'était l'été où on a atterri la sonde Curiosity sur Mars. Donc, je me souviens encore très bien de cette journée-là parce que c'était un moment quand même assez exceptionnel en tant que stagiaire de voir une équipe à atterrir une astromobile si compliquée sur la surface de Mars. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée un peu en amour, en fait, pour l'espace, mais aussi surtout l'exploration robotique et ce qu'on fait ici au JPL. Donc, j'ai fait un autre stage en 2013 et je me suis retrouvée ici en 2014 en tant qu'employée. Donc, ça fait environ 7 ans que je travaille à la NASA, au Jet Propulsion Lab. Et depuis mon arrivée ici, j'ai travaillé sur 3 missions vers Mars. J'ai travaillé sur les CubeSats Marco, qui étaient 2 CubeSats qui ont accompagné la mission InSET et qui ont fait de la télécommunication pendant l'atterrissage de la sonde InSET. J'ai travaillé sur cette mission jusqu'en 2016 et après ça, j'ai commencé à travailler sur la mission InSET, en fait. En travaillant surtout sur les instruments de la mission, qui inclut d'ailleurs le sismomètre 16 qui a été construit en France. Et j'ai travaillé sur cette mission-là pendant 2 ans environ. Donc, j'ai fait tous les tests, aidé à faire les tests pour la mission, l'atterrissage et les opérations en début de mission. Et depuis 2019, je travaille sur la mission Persévérance. Sur cette mission-là, j'ai encore plusieurs rôles. Pendant le développement, je faisais partie de l'équipe qui a fait les tests, tous les tests de conduite, dans le fond, pour le robot, tout ce qui était la préparation pour la conduite sur la surface de Mars. Et maintenant qu'on est sur la surface de Mars, j'aide aux opérations et mon focus est en fait surtout plus sur l'hélicoptère Ingenuity et aider à faire les opérations entre Persévérance et Ingenuity. Donc, c'est moi qui est en charge de faire la coordination des opérations entre ces deux sondes-là.
Très bien. Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante ou professionnelle qui vous a influencé pour vous orienter sur cette belle carrière liée au spatial?
Je pense que c'est pas vraiment une rencontre particulière, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé pendant mon parcours. Un peu comme tout le monde, on fait jamais ce qu'on fait tout seul. Donc, j'ai eu de l'aide de plusieurs personnes qui ont pris une chance, qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert des portes. Donc, bien sûr, j'ai eu des professeurs exceptionnels qui m'ont poussé, qui m'ont aidé à travailler plus fort. Et aussi, j'ai rencontré des gens, par exemple, une des personnes avec lesquelles je travaille maintenant, je l'ai rencontrée à une conférence un jour. En fait, c'est lui qui m'a offert mon premier stage au Jet Propulsion Lab. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont aidée dans mon chemin, dans mon parcours. Et bien sûr, je pense que c'est vrai pour tout le monde qu'on fait jamais tout ce qu'on fait tout seul. Et ça, en fait, c'est ça l'importance. Du mentorat en fait de demander de l'aide quand on a besoin.
Très bien. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce que représente le JPL en fait?
Donc, le Jet Propulsion Lab, c'est un des centres de la NASA. La NASA a plusieurs centres. Le Jet Propulsion Lab, c'est un centre ici en Californie, à La Pasadena. En fait, c'est un laboratoire qui est affilié à Caltech, California Institute of Technology. Et le focus du Jet Propulsion Lab, c'est l'exploration robotique de l'univers, mais surtout de notre système solaire. Donc, on fait tout ce qui est robotique, c'est notre spécialité. Donc, toutes les missions vers Mars qu'on a atterri jusqu'à maintenant, ça vient de chez nous. Mais on explore aussi d'autres planètes et d'autres lunes. En ce moment, on a une mission qu'on est en train de construire qui va aller vers Europa, vers Jupiter. On a aussi des missions qui vont vers des astéroïdes, des choses comme ça. Mais vraiment, notre spécialisation, c'est l'exploration robotique.
Très bien. Le rover Persévérance s'est posé le 18 février 2021 sur la planète Mars. Quelles sont les différentes phases, les différentes étapes de cette mission du rover Persévérance? Et aujourd'hui, où en est-il exactement?
Donc, ça fait à peu près un mois, presque un mois et demi qu'on a atterri sur Mars. C'est comme si c'était hier. Au début de toutes les missions, il y a une période de ce qu'on appelle de commissioning, une période où on apprend comment vivre sur Mars, comment faire les opérations de notre robot. On apprend à comprendre comment tout marche. On fait tous nos check-ups. Donc, on est encore dans cette période-là. La période va durer environ 3 mois. Pendant le premier mois, on s'était vraiment concentré sur faire le check-out de toutes les de tous les de toutes les fonctions majeures de l'astromobile dans le fond. Donc on a pris des photos avec tous nos instruments. On a utilisé notre bras robotique. On a conduit pour la première fois, des choses comme ça. Donc tout ça, ça a pris environ un mois. Et en ce moment, on est dans notre période de démonstration de technologie. En fait, on a pris une pause de notre mission principale pour faire la démonstration d'un petit hélicoptère qu'on a avec nous qui s'appelle Ingenuity. Donc, on a déposé cet hélicoptère sur la surface de Mars il y a quelques jours et on espère faire le premier vol sur une autre planète pendant ce mois-ci. Donc, on va faire ça pendant environ un mois, 30 jours, et après ça, on va reprendre nos opérations de l'astromobile, se diriger vers un endroit un peu plus intéressant du niveau de la science, finir ces check-outs de nos instruments avant de vraiment embarquer dans tout ce qui est la science et prendre notre premier échantillon, des choses comme ça.
Très bien. Alors, du fait de la présence de tempêtes de poussière sur la planète Mars et à côté, la petitesse, la fragilité de l'hélicoptère Ingenuity, est-ce que vous avez anticipé cette problématique-là?
Non, en fait, je pense que c'est un peu, on a tendance à s'imaginer des gros vents, des grosses tempêtes sur Mars, parce que, en fait, c'est ça, les films d'Hollywood qui nous imaginent ça, mais il ne faut pas oublier que Mars a juste 1% de l'atmosphère de la Terre. Donc, même quand il y a des vents et des choses comme ça sur Mars, c'est pas comme s'il va y avoir un gros vent qui va pousser l'hélicoptère et le détruire, par exemple. Quand on est sur la surface de Mars, c'est pas si dangereux que ça. En fait, une autre chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de grosses tempêtes de sable en ce moment. La météo sur Mars ne change pas de jour au lendemain. C'est pas comme si une journée, on peut avoir une belle journée sur Mars et le lendemain, on a une grosse tempête de sable. La météo évolue sur plusieurs jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc, on peut faire des prédictions, en fait, pour savoir, des prédictions météo, dans le fond, pour savoir ça va être quel genre d'atmosphère qu'on va avoir sur Mars. Et en ce moment, il fait très beau sur Mars, donc on ne s'inquiète pas trop. Donc, c'est vrai que ça se peut qu'on voit des vents passagers, mais ça ne serait pas des vents assez gros pour nous inquiéter.
Bien. Alors, concernant le vol de l'hélicoptère sur la planète Mars et le vol d'un hélicoptère quelconque sur la Terre, on remarque pleinement une différence au niveau de la composition de l'atmosphère de Mars et de la Terre. Comment avez-vous pris en compte cet aspect essentiel pour atteindre votre but, qui est de faire voler simplement Ingenuity?
Mais en fait, c'est de la physique. Sur Terre, on sait que c'est l'atmosphère qui nous soulève. Quand on pense à voler, c'est l'atmosphère qui a la force pour soulever le poids d'un avion, d'un hélicoptère, par exemple. En fait, c'est juste une balance de force. Si on a plus de force pour lever quelque chose, on peut lever quelque chose de plus lourd sur Terre. Donc, sur Mars, on a besoin d'être beaucoup plus léger. Et en fait, les pales de l'hélicoptère sont beaucoup plus grandes que ce qu'on aurait ici sur Terre pour un petit hélicoptère comme ça. Donc, l'hélicoptère lui-même a juste 1,4 1,2 kg et ces pales, ils ont environ 1,2 mètres, c'est à peu près 4 pieds de long. Et c'est ce design-là, en fait, qui nous permet de pouvoir voler dans une atmosphère beaucoup plus léger que ce, que ce qu'on a sur Terre. Bon, faut pas oublier que la pesanteur sur Mars, c'est aussi juste un tiers de ce qu'on a sur Terre, donc ça nous aide un peu. C'est pas assez pour... pour compenser le fait que l'atmosphère est plus léger, mais ça nous aide quand même un petit peu d'être un tiers du poids qu'on aurait sur Terre.
Très bien. Alors, côté humain et social, est-ce que les postes à responsabilité au sein de la NASA sont pleinement accessibles pour les hommes, autant pour les hommes que pour les femmes, en dehors des simples communications, comme toutes les entreprises en fait?
Ben, c'est un peu comme toutes les entreprises, surtout en STEM, où on se retrouve qu'il y a environ, on est encore quand même environ 25 ou 30 % de femmes. C'est moins un problème d'accessibilité, mais plutôt un problème de représentation en ce moment. Donc, c'est quand même un monde qui change un peu et qui s'améliore. Mais c'est sûr qu'en grandissant, moi, quand je grandissais, c'était très rare de voir des femmes dans des rôles comme les miens. Je pense que ça change de plus en plus. On retrouve beaucoup plus de minorités dans ces rôles-là. Et je pense que la NASA, comme partout, s'améliore. Ce qui est important, c'est qu'on en parle beaucoup plus, qu'on réalise que c'est un problème et qu'on parle de l'importance de la diversité et de la représentation. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de chemin à faire encore pour se retrouver dans un monde qui est plus 50-50, qui est plus représentatif de la population en tant que non seulement hommes et femmes, mais aussi en tant que minorité visible. Mais ça s'améliore et ça s'améliore dans tout le domaine STEM, je pense, parce qu'on en parle de plus en plus, parce qu'on pousse pour un changement. Et j'espère que dans les prochaines années, on va avoir encore plus d'améliorations de représentation.
Très bien. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles intéressées par les sciences en général et le spatial et l'aéronautique en particulier?
Mais je pense que j'ai toujours les mêmes recommandations pour les filles ou les garçons, n'importe qui dans le fond. C'est que je vous encourage à rechercher votre curiosité et de poursuivre cette curiosité-là, de chercher ce qui vous passionne et d'aller en savoir plus, aller pousser là. Je pense que moi, en grandissant, c'est rare qu'on dise aux jeunes filles que « Ah, tu devrais être ingénieure, ah, tu devrais travailler dans ce domaine-là. » Mais il y a toutes sortes de pressions, non seulement entre garçons et filles, mais même culturelles pour poursuivre différents métiers. Et je pense que c'est important d'essayer de ne pas être influencé par ces pressions-là et de trouver ce qui vraiment vous passionne et après foncer là-dessus. Puis je peux vous dire que c'est pas toujours facile. C'est sûr que j'ai échoué. Combien de fois que j'ai échoué, que j'ai pas réussi, que j'ai eu à me relever, à demander de l'aide, à réessayer. Mais s'il y a quelque chose vraiment qui vous passionne, allez-y, réessayez. À chaque fois qu'on vous dit non, réessayez, parce que dans le fond, ça prend juste un oui, une réussite pour vous retrouver dans un domaine qui vous passionne. Je pense que c'est important d'avoir un métier qui vous donne le goût de vous réveiller à chaque matin, qui vous donne le goût d'aller faire ce que vous faites, quoi que ça soit cette passion-là.
Très bien. Alors, pour en finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société? Et pourquoi, en sachant que selon les régions, les fractures d'une véritable culture scientifique acquise, je dis bien une culture scientifique acquise, par les citoyens et les citoyennes s'agrandissent entre les personnes aisées et les personnes moins aisées. Donc, on a la réalité véritablement économique qui peut jouer un rôle aussi sur l'épanouissement de tout citoyen, citoyen ou citoyenne.
Mais je pense que du côté de l'éducation scientifique, je pense qu'il y a vraiment, c'est un domaine dans lequel on pourrait vraiment s'améliorer. Je pense qu'encore là, ça change un peu grâce à l'Internet, grâce à l'accessibilité à l'information. Je pense que ça devient un peu plus équitable. Mais on se trouve quand même dans un temps où la science est un peu doutée par la population. Et je pense que ça vient d'un manque d'éducation, un manque de compréhension qu'on ne peut pas vraiment utiliser Je pense que des fois, la science, ça fait depuis des années qu'elle s'est enseignée d'une certaine manière qui est pas nécessairement aussi accessible, comme vous l'avez dit, tout dépendant de la population, des écoles, des choses comme ça. Et je pense qu'on commence à réaliser ça, que la science est importante de jour en jour. Ça affecte nos vies, qui qu'on soit. Mais je pense on a un chemin à faire à s'améliorer, à faire de la vulgarisation, à parler de l'importance de la science, à montrer aux gens que non, c'est pas parce que moi j'ai quelque chose sur Mars là-bas que ça ne nous affecte pas ici. Il y a tellement de choses qui nous affectent de la vie de jour en jour. Et c'est vrai que bon, c'est du rocket science, c'est difficile des fois à comprendre, mais c'est pas. Mais je pense que c'est à nous, les scientifiques et les ingénieurs, à expliquer notre travail de manière que ça soit accessible, que ça intéresse les gens, parce que c'est une société qui est éduquée du nouveau, ben, éduquée en général, mais aussi qui comprend la science. C'est une société qui veut s'améliorer, qui avance. Et c'est ça dont on a besoin. Donc, je pense que c'est très, très important d'en parler. Et de prendre le temps de vulgariser ce qu'on fait et de distribuer ça à la population parce que c'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour vous qu'on fait tout ça, l'exploration, la science, c'est pour améliorer la compréhension de l'humanité, dans le fond. La mission Persévérance cherche des signes de vie sur Mars, ça cherche par exemple, à répondre à la question, est-ce qu'on est tout seul sur Mars? On fait pas ça pour, on fait ça pour l'humanité au complet. C'est important d'être capable de partager ça et d'avoir une population qui comprenne ce qu'on fait et qui est capable de s'engager dans ces missions scientifiques.
Très bien. Je me suis